4. Personne ne semblait s'offusquer du fait qu'Avery dormait dans la chambre de Luc presque tous les soirs. C'était le facteur et il apportait à Luc des lettres de Kalisha, des missives de l'arrière qui lui parvenaient non pas par la poste, mais par télépathie. La nouvelle du meurtre de ses parents était encore trop récente et douloureuse pour que ses lettres l'arrachent à son état de torpeur, mais les nouvelles qu'elle renfermait n'en étaient pas moins troublantes et instructives, même si Luc se serait volontiers passé de ces informations. Si à l'avant les enfants subissaient des tests, assortis de châtiments quand ils se comportaient mal, à l'arrière on les obligeait à travailler, on se servait d'eux, on les détruisait à petit feu. Les films provoquaient des migraines de plus en plus longues et intenses après chaque projection. Georges se portait bien quand il était arrivé, il avait simplement peur d'après Kalisha. Mais après 4 ou 5 jours d'exposition aux points, aux films et aux injections douloureuses, lui aussi commença à souffrir de migraines. Les films étaient projetés dans une petite salle dotée de sièges moelleux. Ça commençait par de vieux dessins animés, Bip Bip et le Coyote, Bugs Bunny ou Dingo et Mickey. Et puis, après la première partie, débutait le vrai spectacle. Kalisha estimait que les films ne duraient pas longtemps, une demi-heure au maximum, mais c'était difficile à dire car elle était vaseuse pendant la projection. Et après, elle avait mal à la tête, comme tous les autres. Lors des 2 premières séances auxquelles elle assista, les enfants de l'arrière eurent droit à un double programme. La vedette du premier film était un homme aux cheveux roux clairsemés. Il portait un costume noir et conduisait une voiture noire étincelante. Avery essaya de montrer mentalement cette voiture à Luc, mais celui-ci ne capta qu'une image floue. Peut-être que Kalisha ne pouvait pas envoyer autre chose. Néanmoins, il devait s'agir d'une limousine ou d'une grosse berline, devina-t-il, car d'après Avery, les passagers de l'homme roux voyageaient toujours à l'arrière. Et puis, il leur ouvrait la portière quand ils montaient ou descendaient. La plupart du temps, c'étaient les mêmes personnes, de vieux hommes blancs, mais il y avait parmi eux un type plus jeune, à la joue balafrée. « Chat dit qu'il a des habitués », chuchota Avery, alors que Luc et lui étaient couchés côte à côte dans le lit. « Elle dit aussi que ça se déroule à Washington, car il passe devant le Capitole et la Maison Blanche, et parfois elle aperçoit aussi la grande aiguille de pierre. » « Le Washington Monument. »«
Oui, voilà. »
Vers la fin du film, l'homme aux cheveux roux troquait son costume noir contre une tenue plus ordinaire. On le voyait alors monter à cheval, pousser une fillette sur une balançoire, puis manger une glace avec la même fillette sur un banc dans un parc. Après cela, le docteur Hendrix apparaissait sur l'écran, tenant un cierge magique non allumé. Le second film montrait un homme portant ce que Kalisha appela une coiffe arabe. Elle voulait certainement parler d'un keffier. Il marchait dans une rue, puis il était assis à une terrasse en train de boire du thé ou du café dans un verre. Ensuite, il faisait un discours, puis il balançait un petit garçon en le tenant par les mains. À un moment, il passait à la télé. Le film s'achevait sur l'image du docteur Hendrix brandissant le cierge magique non allumé. Le lendemain matin, Cha et les autres visionnèrent un dessin animé de Titi et Gros Minet, suivi de 15 ou 20 minutes du chauffeur roux. Ensuite, déjeuner à la cantine de l'arrière, avec distribution de cigarettes. L'après-midi, ce fut Cochonnet, puis l'arabe. Chaque film se terminait par l'image du docteur Hendrix et son cierge magique, toujours éteint. Ce soir-là, ils eurent droit à des injections douloureuses et à une nouvelle dose de lumière clignotante. Après quoi, on les ramena dans la salle de projection, où ils regardèrent pendant 20 minutes des images d'accidents de voiture. Après chaque accident, le docteur Hendrix apparaissait sur l'écran en tenant le cierge magique non allumé. Luc, toujours accablé de chagrin mais pas stupide, commença à comprendre. C'était totalement dément, mais pas plus que de pouvoir découvrir de temps à autre ce qui se passait dans la tête des gens. Et ça expliquait un tas de choses.
« Kalisha pense qu'elle s'est évanouie et qu'elle a rêvé pendant les accidents de voiture », murmura Avery à l'oreille de Luc. D'un autre côté, elle n'est pas certaine que c'était vraiment un rêve. Elle dit que les enfants, elle, Nikki, Iris, Donna, Len et quelques autres, se trouvaient à l'intérieur de ces points lumineux et qu'ils s'enlaçaient, tête contre tête. Le docteur Hendrix était là et cette fois il avait allumé le cierge magique. Ça faisait peur. Mais tant qu'ils restaient ensemble, accrochés les uns aux autres, ils n'avaient plus de migraine. Qu'Alisha dit que c'était peut-être quand même un rêve parce qu'elle s'est réveillée dans sa chambre. Les chambres de l'arrière ne sont pas comme les nôtres. Le soir, les portes sont fermées à clé. Avery s'interrompit. Je n'ai plus envie de parler de ça ce soir, Lucky.
Ok, dors.
Avery s'endormit, mais Luke resta longtemps éveillé. Le lendemain, il utilisa enfin son ordinateur pour autre chose que connaître la date, correspondre avec Hélène ou regarder BoJack Horseman. Il rendit visite à Mr. Griffin, et de là, il se rendit sur le site du New York Times, qui l'informa qu'il pouvait lire gratuitement 10 articles. Luke ne savait pas trop ce qu'il cherchait, tout en étant certain qu'il le saurait quand il tomberait dessus. Et en effet, un gros titre à la une du journal du 15 juillet annonçait « Le député Berkowitz succombe à ses blessures ». Au lieu de lire l'article, Luke revint un jour en arrière. Le gros titre disait « Mark Berkowitz, le favori de l'élection présidentielle, grièvement blessé dans un accident de voiture ». Une photo l'accompagnait. Berkowitz, un élu de l'Ohio, avait des cheveux noirs et une cicatrice sur la joue, souvenir d'une blessure reçue en Afghanistan. Luke survola l'article. On y apprenait que la Lincoln à bord de laquelle Berkowitz se rendait à une réunion avec des dignitaires venus de Pologne et d'autres pays de l'Est avait fait une sortie de route et percuté une pile de ponts en béton. Le chauffeur était mort sur le coup. Selon plusieurs sources anonymes à l'hôpital MedStar, les blessures de Berkowitz étaient d'une extrême gravité. L'article ne précisait pas si le chauffeur était roux, mais Luke le savait, comme il savait qu'un homme dans un pays arabe allait bientôt mourir, si ce n'était déjà fait. Ou peut-être qu'il allait assassiner quelqu'un d'important. La conviction grandissante que les autres enfants et lui-même étaient formés en vue de devenir des drones psychiques, y compris l'inoffensif Avery Dixon, qui ne ferait pas de mal à une mouche, commençait à stimuler Luke. Mais il fallut que survienne la scène d'horreur avec Harry Cross pour l'arracher totalement à la torpeur du chagrin.